Mimi, là, là j'entends plus rien.
Normal, tu te trompes. Tu branches la radio sur la mauvaise fréquence.
Vous avez déjà eu cette sensation où tout vous échappe un peu, vous sortez de chez vous, vous ne savez plus si vous avez fermé la porte à clé, si vous avez pris votre téléphone, si vous avez bien dit au revoir à quelqu'un. C'est comme ça, parfois, le quotidien s'effiloche, les gestes sont là, mais les souvenirs se brouillent. Et on se dit, ce n'est pas si grave, on oublie, on se rattrape, le souvenir reviendra plus tard, comme une bulle qui remonte à la surface. Mais imaginez que ce ne soit pas le cas, que cette bulle ne remonte jamais, que les souvenirs ne soient plus au rendez-vous, ou seulement par bribes, par éclats. Alors que reste-t-il? Est-ce qu'on est encore soi sans ses souvenirs? Est-ce qu'on peut encore aimer quand on ne se souvient plus du prénom de celui ou de celle qu'on aime? Peut-être que la mémoire, ce n'est pas seulement dans la tête. Peut-être qu'elle se niche dans un geste répété, dans une chanson qu'on fredonne sans savoir pourquoi, dans la chaleur d'une main serrée sans savoir qui est celui qui tient tant à prendre la mienne. Aujourd'hui, on parle d'Alzheimer, pas seulement de la maladie, mais de ce qui demeure quand la mémoire s'efface. Avec nous dans le studio de l'autre radio pour en parler, Paul Choinet, président de France Alzheimer Mayenne, et Monique Chevalier-Martin, vous êtes membre de l'association. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec
Bonjour.
Nous.
Bonjour.
Et puis donc, comme c'est la semaine consacrée à cette maladie, notre reportage du jour nous emmènera dans une salle de sport à Laval, au Bourny plus précisément, salle Pascal Ménard, au cœur d'une activité de tennis de table. On découvrira comment le jeu, le mouvement, le plaisir simple de taper dans la balle permettent de recréer du lien, de retrouver de la joie, d'ouvrir d'autres chemins que ceux de la mémoire. Et puis, comme chaque jour dans cette émission, il y a des voix qui passent, qui s'installent, qui clôturent, des voix qu'on attend un peu, comme on attend un ami au café. Aujourd'hui, c'est Soizic qui nous rejoint avec son regard, son sourire dans la voix et sa chronique, un autre écho de l'écho. Bonjour à l'auditeur de l'autre radio, vous êtes là avec nous, c'est déjà beaucoup, c'est ce qui compte. Je m'appelle Margot et j'aime que cette émission commence avec vous en direct, puisque oui, c'est bien l'agité du local qui commence et elle commence toujours avec l'invité du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Cette semaine, partout en France, on parle d'Alzheimer, une maladie qui touche la mémoire, mais pas seulement, une maladie qui bouleverse aussi les familles et qui nous interroge sur ce qui reste quand les souvenirs s'effacent. Pour en parler avec nous, je le disais, j'ai le plaisir de vous avoir avec nous tous les deux. Paul Choinet, vous êtes le président de l'association France Alzheimer Mayenne. À vos côtés se trouve Monique Chevalier-Martin. Peut-être pour recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'association sur le territoire ?
Oui, donc notre association est une association de familles et de personnes malades à l'échelle de l'ensemble du département de la Mayenne. Et nous appartenons à une fédération qui regroupe les... Il y a une association par département en France et en Outre-mer et dans les départements d'Outre-mer, en fait. Et la maladie d'Alzheimer, ce qui la caractérise, si vous voulez, c'est une maladie de la relation. Parce que la personne elle-même, elle oublie, et donc les oublis, ça crée des difficultés de vie quotidienne, et puis relation avec elle-même, relation avec ses proches, et surtout aussi relation avec le monde extérieur, social, etc. Et puis cette pathologie, quand elle progresse dans le cerveau, elle va petit à petit désadapter la personne de sa vie quotidienne. Je ne sais plus comment j'enfile mon vêtement, ou je ne sais plus comment je fais ma cuisine, ou je ne sais plus comment je range mes affaires. Et donc, associer la perte de la relation et la perte de l'adaptation à notre vie quotidienne, ça complique beaucoup la vie, y compris donc pour le proche, hein, qui est parfois avec la personne, hein, lorsque les personnes vivent encore en couple. Par contre, ce qui demeure tout le temps, c'est que ce qui a été rangé dans le cerveau avant d'être malade, est toujours présent. Toujours, toujours présent. Les sentiments, l'histoire de vie, le métier, le contenu, la famille, tous les rôles de la vie en termes d'éducateur de ses propres enfants, en termes d'épouse, de mère, en termes de parents, de citoyens, tout ça, le travail, tout ça demeure dans son cerveau. Et donc s'il y a une écoute suffisante, des capacités d'offre, sensorielle, hein, parce que la personne, elle n'arrive plus à élaborer des pensées. Mais elle va vivre avec tous ses sens. Donc elle entend, elle voit, elle touche ce que vous avez évoqué en introduction. Elle perçoit ce qui se passe et à partir de là, elle va continuer d'échanger, de vivre.
C'est à partir de cela, peut-être qu'on construit un accompagnement. C'est aussi là-dessus que France Alzheimer construit peut-être ses propositions sur le territoire.
Oui, avec différentes offres, hein, évidemment. Alors, nous, on a des offres envers les personnes malades pour réentraîner la mémoire, mais aussi, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, en sensoriel, avec de l'art-thérapie, donc tout ce qui est manipulation, création, avec aussi de la musique, hein, qui est donc là aussi du sensoriel fort, et de la danse, etc. Et il y a aussi des activités telles que des activités physiques. On va reparler du tennis de table. Hein. Aujourd'hui, la recherche a démontré tout le grand intérêt du tennis de table pour ces personnes. Et puis, on a aussi des activités avec les aidants, de soutien, de rencontres, pour essayer de dépasser le « simplement prenez soin de vous, ne vous oubliez pas », parce que c'est toujours ce qu'on entend et ce qu'on dit lorsqu'on est aidant. Et on essaie de faire une offre un peu différente pour sortir de ça et passer au « comment faire ». Parce que les aidants souffrent surtout de travail physique important, de travail mental qui va aussi entraîner des fatigues. Et là, on a des offres spécifiques autour de ça, telles que par exemple la sophro-relaxation, telles aussi que des épisodes de festifs, de liens sociaux qui vont permettre en fait de vivre.
La question que l'on pose aujourd'hui, c'est que reste-t-il quand la mémoire s'efface ? On peut insister sur effectivement la disparition du souvenir, mais malgré tout la présence enfin, de certains souvenirs, d'une partie de la mémoire. Peut-être qu'on peut redéfinir justement, parce que je sens que je manque de précision. Paul, je vous vois tiquer un petit peu.
Non, mais je vous dis, la personne, elle ne va plus arriver à stocker dans sa mémoire les événements de vie, sauf des événements fortement connotés émotionnellement. Hein, la naissance d'un petit-fils, d'un arrière-petit-fils, le mariage, etc. Le décès aussi d'un frère ou d'une sœur à leur âge, hein, c'est possible. Et donc, ces mécanismes-là risquent encore d'être stockés, mais la personne, elle ne va plus mettre dans sa mémoire, lorsqu'elle est malade, les souvenirs. Par contre, tout ce qui a été rangé avant, et c'est encore dedans. Mais elle, toute seule, elle n'arrive plus à les rappeler. Elle a besoin d'un tiers pour arriver à se rappeler qui elle était au niveau de son identité propre et de sa vie. Et donc, c'est un peu le rôle, nous, en termes d'association, de faire des formations, des parcours auprès des familles et des aidants pour, justement, hein, favoriser ces mécanismes de maintien des capacités relationnelles et des maintiens de la personne comme sujet de son existence, en fait. Qu'elle soit encore existante à travers tout ce qu'elle a été. Parce qu'aujourd'hui, elle a du mal, toute seule, à le rendre et à le restituer, parce que c'est un peu ce que dans notre vie quotidienne on discute, hein. On rencontre un ami, on parle de ce qu'on a fait ensemble, on rencontre quelqu'un d'autre, on parle de ce qu'on a vécu ensemble, et elle peut plus faire ça s'il n'y a pas un processus relationnel particulier qui va l'aider à le faire.
C'est la réinvention d'un certain langage, Monique. La parole se fragilise, mais d'autres langages apparaissent, le corps, le regard, le toucher. On en a dit un petit peu quelques mots. Quelle place accordez-vous à ces formes de communication quand on est confronté à la maladie ?
Alors, quand son proche perd sa parole, il lui reste encore plein d'autres moyens de communiquer. Le regard est quelque chose d'essentiel, et le sourire, et le toucher. Tenir la main du malade qu'on a côtoyé et qu'on continue de côtoyer, il se passe plein de choses. Et le regard, les sourires, y a pas... c'est un autre mode de communication. Et dans l'importance de ce que disait Paul tout à l'heure, c'est on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans la mémoire. Et celui qui accompagne, qui a partagé toujours ces moments de vie, il sait aussi les faire ressortir. Et du coup, la personne revit un peu ces choses-là. Enfin, pas consciemment forcément, mais le vécu, il est là, et l'accompagnement étant là, il est essentiel. Et il est essentiel aussi que l'accompagnant ne soit pas seul à porter tout ça.
C'est ça, c'est important de rappeler effectivement que la maladie bouleverse aussi les familles. Il y a des grandes difficultés par étape, même que rencontrent les aidants au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut rappeler ces difficultés auxquelles les aidants sont confrontés le plus ? Peut-être est-ce qu'il y a des particularités en Mayenne, même dans l'accompagnement, dans ce qui est proposé ?
Alors l'accompagnement, il est essentiel, hein, accompagnant de l'aidant et de l'aider. Et je dirais, c'est aussi de soutenir tout le temps l'aidant dans le fait qu'il doit toujours, toujours, toujours s'adapter à de nouveaux comportements et toujours ben aussi lui puiser dans ses souvenirs et dans le vécu qu'il a eu avec la personne et être accompagné aussi dans tout ça. D'où l'importance aussi que l'aidant puisse bénéficier du soutien de professionnels et de bénévoles d'associations comme France Alzheimer Mayenne. Donc, il est essentiel d'être soutenu tout le temps dans ce parcours-là parce qu'on sait que la maladie isole, mais pas seulement cette maladie-là, mais beaucoup d'autres, mais celle-là encore plus particulièrement. Et donc, ne pas rester isolé, pas seul, quoi. Apporter tout ce qu'il faut porter, quoi, hein, en tant qu'aidant.
Parce que l'isolement est aussi lié au discours. Hein, la personne n'a plus de discours parce que son cerveau ne génère pas d'idées nouvelles. Et donc, elle est plutôt dans un processus de ritualisation ou de gestes ou de mouvements. Et ne générant pas d'idées nouvelles, tout dialogue est compliqué. Beaucoup d'aidants, en fait, ont une souffrance importante de pas parler ou de parler très peu ou de parler seul. Et ça, c'est une vraie souffrance psychologique lorsque on est comme ça. Il y a la présence de quelqu'un, mais le dialogue est difficile. Et alors qu'on peut malgré tout utiliser le dialogue parce que la personne, elle entend encore. On peut utiliser, lui montrer parce qu'elle voit encore. On peut l'emmener, se promener parce qu'elle marche encore. On peut lui faire ressentir, vous voyez, des choses parce que la personne, elle vit non plus dans une relation telle qu'on la vit nous, mais elle vit surtout uniquement dans un ressenti. Elle voit une voiture, elle va ressentir la vision de cette voiture sous différentes formes. Reconnaître que ça peut être une de ses voitures, mais que ça peut aussi ne jamais lui dire quelque chose, ou ça va lui évoquer simplement la couleur, ou ça va lui évoquer simplement l'avant, l'arrière, peu importe. Mais elle vit uniquement du perceptif. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche. Et donc, ce mécanisme-là est difficile au niveau d'un permanent quotidien.
C'est une perception qui, effectivement, des choses, de l'environnement qui évolue. Et pour le proche aidant, il y a aussi des étapes d'acceptation, j'imagine, quand on est confronté à un diagnostic. C'est pas si évident que ça, d'accepter que son proche va changer, que le rapport avec ce proche va évoluer.
Il est en effet très difficile pour un aidant de cheminer justement à côté de son proche qui est en train de développer cette fichue maladie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir poser le diagnostic, c'est déjà une première étape. Alors, le diagnostic étant posé, ben, il y a aussi l'étape suivante, c'est de l'acceptation de la maladie, même s'il y avait des signes, bien sûr. Mais il faut cette étape-là, et ensuite accepter que je ne peux pas rester tout seul avec tout ça. Je reviens de nouveau sur l'aide, le soutien à l'aidant et à l'aider. Je dis toujours les deux. C'est important que les deux soient soutenus parce qu'il faut, continuer de cheminer avec de nouvelles embûches.
Allez-y, Paul. Ouais.
Après le diagnostic, le jour du diagnostic, ce n'est pas un lundi à 15h qui va bouleverser la vie, si vous voulez. Mais c'est l'annonce que l'on reçoit. Et cette annonce que l'on reçoit, il y a besoin de la digérer, de l'avaler. Hein, c'est compliqué. Et donc, pour arriver petit à petit au fil des jours, à se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça ? Qu'est-ce que nous allons faire avec ça ? Il y a d'autres maladies qui peuvent nous tomber sur la tête, hein, mais qui n'ont pas la même image dans la société, ou le même pronostic aussi, ou les mêmes capacités de guérison. Et donc, avec les maladies neuroévolutives, il y en a un tel qu'une maladie de Parkinson, ou il y a la sclérose en plaques, il y a d'autres maladies évolutives aussi, qui n'ont pas directement de traitement pour les enlever. Et donc, la question, c'est se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça ? Et le « nous », c'est à la fois le conjoint, la conjointe, les enfants, la personne malade elle-même, mais les amis, c'est-à-dire que cette démarche-là, elle est compliquée parce qu'elle nous met en difficulté avec cette personne qui est en difficulté relationnellement et qui petit à petit se désadapte. Elle nous met en difficulté parce que les amis, ils ont tendance à moins venir, on a moins de coups de téléphone, nous-mêmes aussi, par rapport au risque de ce que la personne peut dire ou faire, on va peut-être hésiter à aller à tel ou tel endroit ou sortir, etc. Donc il y a un processus d'isolement social qui est encore accentué plus s'il est aussi géographique. hein, c'est-à-dire si on est là où on habite, ça dépend. Et donc c'est ce mécanisme-là va mettre en souffrance et avoir des répercussions au quotidien, c'est-à-dire sur comment je continue d'avoir plaisir à cuisiner, d'avoir plaisir à vivre là où je suis, d'avoir plaisir à... Et puis d'autres inconvénients qui vont... je me retrouve avec plus de tâches à faire moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui participe moins. Je me retrouve parfois à être réveillé la nuit parce que la personne, elle aussi, elle a des troubles autour du réveil ou du sommeil ou de réendormissement. Enfin, vous voyez, ça bouleverse complètement. Et il y a besoin là d'avoir des professionnels et d'avoir des associations pour dire je vais aller voir ce qu'on va faire avec ça.
Vous l'avez dit, France, l'association France Alzheimer ou France Alzheimer. Mayenne est une association de famille. C'est important aussi de se croiser, d'échanger entre personnes qui vivent cette maladie, qui y sont confrontées. Il faut se dire aussi qu'en fait, d'une personne à une autre, on n'a pas exactement les mêmes symptômes, si on peut dire.
Bien sûr, les caractéristiques diffèrent d'un malade à l'autre. Pareil, le vécu du proche diffère aussi, selon les familles, bien entendu. Mais le fait de se rencontrer, que ce soit des groupes de parole, que ce soit autour des activités proposées aux aidants ou aux aidés, il y a des échanges très riches et c'est très soutenant pour les aidants de pouvoir partager même des choses du quotidien, du banal ou du moins banal, mais le fait de pouvoir échanger, c'est très enrichissant et c'est soutenant. C'est soutenant pour tous et on sait que les aidants le soulignent. Hein. Tout à l'heure, vous parliez aussi du ping-pong autour de justement pour aider tous ces malades. Mais les conjoints ou les aidants qui ne participent pas forcément à l'activité sont là quand même. Et il y a un échange entre eux, entre les aidants et les aidés, tout ça.
Il ne faut pas hésiter à passer le pas de la porte, à téléphoner, en tout cas prendre des informations, essayer, tenter et voir s'il y a des choses, si on trouve un écho à notre histoire. Paul, ouais. Vous proposez avec l'association différents rendez-vous prochainement pour parler de cette maladie, pour la mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
On a tendance à profiter un peu de la semaine mondiale, hein, tout entière. Donc, on a proposé cette année, en fait, de faire des ciné-débats à travers tout le département de la Mayenne autour d'un film qui s'appelle Les Esprits Libres. Donc, on voit bien déjà dans le titre, ce sont des personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer et qui, dans un établissement, partent en stage de théâtre, en fait, mais pendant 15 jours dans un lieu différent de leur établissement avec les soignants qui s'occupaient d'eux. Et là, il y a un autre mode de vie qui s'installe et qui se passe et qui décrit parfaitement, en fait, les ressources des personnes. Parce que les ressources des personnes, elles sont capables d'élaborer un spectacle et des scénettes malgré tous leurs troubles et tout ce qui se passe. Et donc, on a fait ça hier soir déjà au Vox à Mayenne. Donc, ce soir, au Bourgneuf-la-Forêt, à 20h30, hein, c'est au cinéma Le Trianon. Demain soir, 18h, au Cinéville à Laval, à 20h. Ensuite, nous avons le 23 septembre à Renazé, à 20h, au cinéma Le Vox. Et le 25 septembre, à 20h30, à Évron, au cinéma Yves Robert. Et puis, le 9 octobre, au Palace, à Château-Gontier. Là aussi, donc à 20h, c'est pour, après le film, faire un débat. L'entrée du film est gratuite, donc les personnes peuvent venir assister au film et passer en fait un moment. Alors c'est vrai que c'est le soir, mais c'est pour qu'il y ait aussi une ouverture possible aux familles, aux proches qui parfois travaillent et qui parfois ne peuvent pas se libérer dans l'après-midi, et donc on est plutôt sur des séances du soir. Et parfois par contre ça pose une difficulté pour une personne malade et son proche aidant qui a plus de difficultés à sortir en soirée, ce qu'on peut comprendre avec les rythmes qu'impose la maladie.
Si on veut vous contacter en dehors de ces rendez-vous, si l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute il ressent le besoin, se dit tiens, où est-ce que ça se passe?
Oui, donc on est installé dans deux endroits en Mayenne, à la Maison des Associations à Laval, dans le quartier Ferrier. Et donc là, on a un local. Et hein, autrement, il y a aussi un site internet, hein, francealzheimer.org/mayenne, pour permettre de découvrir l'ensemble de toutes nos activités. Et puis, il y a aussi donc des réunions. Hein. Nous faisons des réunions dans chaque EPCI, hein, ex-communauté de communes du département. En 2025, par exemple, on va faire 55 réunions à travers tout le département. important pour les proches, en mettant ça dans les journaux, en mettant ça pour permettre aux personnes de venir, comme on le disait tout à l'heure, sortir de son isolement, rencontrer d'autres personnes, voir comment les autres s'en sortent ou font, parce que c'est surtout du partage et de la ressource en fait. Et donc voilà, autrement on a un mail qui est le contact53@francealzheimer.org.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continue sur cette thématique. On continue de parler de la maladie d'Alzheimer avec vous dans quelques instants, puisqu'on se rendra au Bourgny pour l'activité de tennis de table. J'ai été à la rencontre des participants. Et donc, ce sera juste après cette pause musicale. On écoute tout de suite Love is All Around de Lucky Love.
Get off, cause our love is all around. Love, his love is all around. Love. All alone, down the hill, see you come, my dry, I lose control. My love is so wild, you're so bright. You just can't tell the night. I'm ready for you now. Come. Nothing to be scared of. Cause our love is all around. Love. His love is all around. Love. All alone. Down.
On parle beaucoup d'oubli, d'absence, de ce qui disparaît, mais peut-être que la vraie question, c'est qu'est-ce qui reste quand la mémoire s'efface? C'est le fil rouge de cette émission et aussi de cette semaine consacrée à Alzheimer. France Alzheimer Mayenne essaie chaque jour de rappeler qu'au-delà de la maladie, il y a la vie qui continue, autrement, différemment. Alors pour comprendre comment cela se traduit, non pas en théorie, mais en gestes simples, en sourire partagé, je suis allée dans la salle Pascal Ménard au Bourgny, là-bas, autour d'une table de ping-pong, malade, proche et bénévoles se retrouvent parce qu'il suffit parfois d'une balle renvoyée pour que le lien se réinvente. Écoutez. Dans cette salle de sport, au Bourgny, les balles claquent, les éclats de rire résonnent. Ici, on ne parle pas de traitement ni de symptômes. On joue, on bouge, on se retrouve. Pour les personnes touchées par Alzheimer et leurs proches, le tennis de table devient un prétexte, un chemin simple pour recréer du lien.
« Alors, Laurent Depont, membre du Laval Bourny Tennis de Table, responsable de toute la partie sport-santé et notamment du groupe dédié aux malades d'Alzheimer et Parkinson. Donc voilà, bah, c'est notre séance hebdomadaire d'une heure et demie où on accueille les malades et les aidants. Donc aujourd'hui, petit effectif parce qu'il y en a qui sont en vacances. Mais on a donc, si je les compte bien, 3, 4, 5, 6, 6 malades, 3 Alzheimer et 3 Parkinson, plus quelques aidants, notre éducatrice qui est là pour toutes les séances, un jeune du club qui vient en renfort et moi-même pour renvoyer la balle avec tous ces gens-là, leur donner un moment de plaisir. Les réveiller aussi musculairement, sur la motricité, enfin bon, tout ce qu'on recherche dans notre partenariat avec l'association France Alzheimer et l'association France Parkinson, depuis que la Fédération Française de Tennis de Table s'est lancée dans cette démarche. Hein, on a été pionnier en 2021 pour le groupe Alzheimer, enfin, quand je dis pionnier, dans les premiers clubs français à rentrer dans cette démarche. Et puis depuis l'année dernière, on a intégré la section Parkinson et on est plutôt content de ce qu'on apporte aux malades.
En quoi ça complète justement les autres propositions de l'association France Alzheimer ?
Moi, je suis le premier surpris puisque c'est une étude médicale anglaise qui a au départ démontré les bienfaits du ping pratiqué, on va dire, de façon modérée comme on le fait. Quand la Fédération française de tennis de table a rentré dans la démarche, j'ai été intéressé. On a été reçu au comité olympique pour justement rencontrer des médecins qui nous ont convaincus qu'il y avait vraiment des bienfaits, hein, et on le remarque, hein, on a des malades Alzheimer, je pense notamment, mais aussi Parkinson, qui sont dans des problématiques de motricité, de coordination de mouvement assez compliquées et qui, quand on les met derrière la table, hein, on peut le voir là, Jean-Pierre au fond, qui retrouve d'un seul coup une motricité, une tonicité, un équilibre. Donc je pense qu'on le constate au quotidien.
Et alors en plus de tout ce qui est physique, c'est aussi un temps collectif important pour le lien social.
Oui, alors ça aussi c'est quelque chose qu'on a choisi au Laval Bourny Tennis de Table. C'est plutôt que d'organiser des séances hebdomadaires comme certains clubs le font, où les gens se retrouvent mais dans une salle qui n'est pas la salle de tennis de table du club, hein. C'est une intervention généralement de l'éducateur, soit dans une salle des fêtes. Nous, on a plutôt choisi le fait de les intégrer. Ils sont licenciés de la Fédération de tennis de table, que ce soit les malades ou les aidants. Ils font partie du club, ils sont associés à la vie du club. Et je pense aussi que le fait de se retrouver dans une vraie salle de sport où ils voient l'activité sportive, hein. Alors, parfois ils arrivent, il y a une séance jeune avant, une séance jeune après, tout ce monde-là se mélange. La preuve, c'est que Mathis, qui est un jeune du club, là, n'hésite pas à venir donner un coup de main et à renvoyer la balle avec eux. Donc c'est vraiment l'idée de les intégrer. Et puis voilà, c'est aussi un espace de socialisation, comme ils en ont d'autres avec leurs associations. Mais celui-là, je pense que passe assez bien, aussi bien avec les aidants qu'avec les malades.
Estelle Perrier, donc l'éducatrice sportive du club au tennis de table.
C'est impossible de faire l'activité sans les aidants. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup de besoin de relance. Et puis, dès qu'il y a un temps mort, en fait, faut être derrière. Donc là, c'est important d'avoir une personne, on va dire, à peu près valide ou un aidant avec une personne en difficulté. Mais bon, on n'a jamais trop de problèmes et puis on fait quand même des échanges, entre 2 à 10 échanges, c'est énorme. Et alors dès qu'on commence à mettre la balle sur la table, on voit bien que la personne est stimulée, elle est complètement différente, elle revient un petit peu plus à elle. Alors moi je ne suis pas dans le médical, je suis plutôt dans le sport, donc c'est assez étonnant. Et puis au bout de 2 à 5 minutes d'échange ou de balle sur la table, les personnes sont un peu plus présentes mentalement. Donc c'est vraiment intéressant.
Vous faites ça depuis combien de temps ?
Alors moi ça fait que 2-3 ans que je suis au club, mais je suis venue directement dès la première séance, dès que je suis arrivée. Je suis venue aider Laurent Depont qui a mis en place la section. C'est vraiment intéressant. Après j'ai l'habitude avec pour les sections handisport ou sport adapté, mais ça n'a rien à voir. Donc là on est vraiment dans le lien social pur. Il y a du sport, mais on est vraiment sur du lien social.
qui m'appelle Madame Chaudet-Odette. Je viens pour mon mari qui est aidé. Donc je l'accompagne. Partout où il va, je l'accompagne. Alors, ça fait 9 ans que mon mari a été diagnostiqué. Moi, je l'avais vu parce qu'il allait beaucoup à la pêche. Et une ou deux fois, il me téléphonait, il me disait « j'ai oublié ci, j'ai oublié ça ». Je disais « c'est bizarre, comment tu oublies comme ça ?» Et puis après, la maladie s'installe. Et ça fait 4 ans qu'il ne conduit plus déjà, parce que je m'étais dit « sur la route ». Puis je voyais bien qu'il y avait des petites choses qui ne correspondaient plus. Mais là, depuis 6-7 mois, il y a toujours eu une évolution. Mais là, ça se dégrade de plus en plus. Quoi.
Il a quel âge votre mari ?
Il va avoir 74 ans dans 8 jours.
Justement, votre quotidien, aujourd'hui, vous le décririez comment ? On ne se rend pas bien compte quand on n'est pas confronté à cette maladie-là. Et vous, en tant que proche aidant, votre quotidien aussi a changé ?
Il a beaucoup changé parce que je suis obligée de rester toujours avec lui. Toujours, je ne peux pas m'en aller. De toute façon, je vais chez le coiffeur, il vient avec moi. Partout où je vais, il me suit. Il va juste au pain tout seul.
Qu'est-ce qui change quand vous participez ensemble à ce type d'événement au retour à la maison ? Vous vous sentez que c'est essentiel de programmer ce genre de type d'activité, d'animation ?
Oui, ça lui fait du bien. Mais parce qu'il ne parle pas, hein. Très très peu. Ah oui, ça alors là, très peu. Mais bon, je vois que... Oui, des fois il chante après. Ah, j'ai dit tiens, c'est que ça a dû aller. Oui, c'est comme ça que je vois que... Oui. Puis je vois bien que ça lui plaît de venir.
Et il est bon.
Oui, la première fois, je me suis dit, oh là là, il ne sait pas jouer à ça. Bah, Monique, elle me dit, ah, heureusement que tu dis qu'il ne sait pas jouer. Elle dit, regarde donc, il sait bien jouer.
Oui, en fait, il ne faisait pas forcément ce type d'activité avant.
Si, quand il était très jeune. Mais autrement, même avec ses enfants, mais il n'a pas beaucoup fait parce que malheureusement, on était en boulangerie, donc c'était compliqué, quoi. Donc, il ne faisait pas ça, quoi. Donc, mais là, j'ai trouvé que ça, c'était une très bonne animation. Ah oui.
Vous aussi, en tant qu'aidant, ça vous aide à souffler au quotidien ?
Oui, parce que comme là, quand je suis ici, on discute tous ensemble. Ça aide beaucoup.
À Laval, ces séances de tennis de table ne sont pas là pour soigner la mémoire. Elles sont là pour offrir un espace différent, loin des diagnostics et des inquiétudes. Ici, malades et proches se retrouvent autrement autour d'une table, d'une balle et de nombreux sourires. Des instants très simples, mais qui redonnent souffle et légèreté au quotidien. Nous voilà arrivés dans ce moment de l'émission où une voix familière nous rejoint, c'est celle de Soizic avec sa chronique Un autre écho de l'écho. Bienvenue Soizic dans cette nouvelle saison de la JT du local.
Eh bien bonjour et à tous et à toutes, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour de nouvelles, bon pas toujours très bonnes, mais au moins des nouvelles lucides et objectives. Alors pour commencer... Tambour battant cette nouvelle saison, je vous propose de revenir sur les événements climatiques qui ont marqué l'été 2025, faire un petit bilan. Alors bien sûr, le plus remarquable, mais non pas exceptionnel, ce sont les deux vagues de canicule, celle de juin et celle d'août, avec des températures supérieures à 40 degrés, tenez-vous bien, à 32 reprises, soit autant que durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et ces deux vagues de chaleur figurent parmi les plus longues, les plus intenses et les plus étendues géographiquement. C'est ce qui fait qu'elles sont remarquables. Donc, remarquable oui, un été exceptionnel, eh bien non, parce que ce sera un été normal en 2050. Le pire semble donc à venir parce que selon les scientifiques, sur la trajectoire actuelle d'un réchauffement à plus 4 degrés, la France connaîtra 10 fois plus de vagues de chaleur d'ici à la fin du siècle. Alors, le 25 août dernier, dans un entretien accordé au Monde, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, que tout le monde connaît maintenant, rappelait que rétrospectivement, à la fin de ce siècle, l'été 2025 nous semblera frais. Une perspective vertigineuse, tant il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, bien sûr. Et elle ajoute, je cite, « Actuellement, après chaque vague de chaleur, il y a une réaction collective qui est de passer à autre chose, ce qui construit une forme d'indifférence très préoccupante. Le danger, poursuit-elle, vient aussi d'un déni collectif. » Et pourtant, l'été fut bien meurtrier puisqu'il a causé la mort de 780 personnes. Mais ceci en toute discrétion, soit l'équivalent de deux crashs d'un Boeing 747 qui, eux, auraient fait la une des médias.
Et cet été a été aussi celui des incendies à répétition.
Eh oui, tout à fait Margot, parce que comme dans l'Aude, on a compté jusqu'à 15 incendies simultanés. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se prépare à avoir les moyens pour un jour combattre tous ces incendies en même temps? Et puis le problème, c'est que ces risques d'incendie montent vers le nord. Parce que si le réchauffement s'établit à plus 4 degrés, ce qui est prévu pour 2100, eh bien le risque d'incendie en région parisienne sera égal à celui des côtes méditerranéennes aujourd'hui. Et puis au feu, bah, se rajoute bien sûr le problème de l'eau. Entre la multiplication des cyanobactéries liées à la conjugaison pesticides et chaleur, et la forte diminution de la quantité d'eau stockée dans les nappes phréatiques, eh bien nous allons au-devant de problèmes assez flippants, effectivement. Alors que ce soit à cause de l'intensification de l'évapotranspiration ou du pompage excessif pour faire pousser du maïs, eh bien le cycle de l'eau s'accélère, faisant alterner inondations et sécheresses. Parce que plus le climat se réchauffe, eh bien plus les pluies sont diluviennes. L'atmosphère contient en effet 7% de plus d'eau par degré supplémentaire de réchauffement.
Mais alors cet été caniculaire peut-il relancer la transition écologique après des mois de recul de la politique écologique des pays et notamment celle de la France ?
Eh bien, au risque de vous décevoir Margot, ce n'est pas au centre des préoccupations ni politiques ni économiques. D'ailleurs, personne par exemple ne parle de la prochaine COP qui se tiendra en novembre à Belém et pire encore, 90% des pays participants n'ont toujours pas rendu leur feuille de route. Donc on en est très loin. Mais on préfère nous dire, on va s'adapter. Le problème de l'adaptation, c'est que ça ne marche pas au-delà de certaines limites dites dures. La seule adaptation, c'est alors, au bout d'un moment, hein, de quitter le territoire. Et on croit que ça concerne que des micro-États, comme les îles Maldives. Eh bien, pas du tout. Parce que c'est une question qui va se poser aussi, par exemple, excusez-moi du peu, pour New York. Et ça, dans les toutes prochaines années, puisque la grosse pomme n'est construite qu'à 1 mètre au-dessus du niveau des mers, de l'Atlantique. Alors bien sûr, on peut se rassurer en se disant que la France, pour ne citer qu'elle, s'est dotée d'un magnifique plan d'adaptation. Le problème, c'est que rien n'est dit ni sur la méthode, ni sur la trajectoire, et bien sûr, ni sur le coût. Alors, des initiatives locales voient le jour, hein, que ce soit à Paris, à Lyon, voilà, il y a des choses qui se font. Mais le problème, c'est que ça ne va pas assez vite par rapport à l'urgence de la situation. Par exemple, François Vimeux, climatologue française, rappelle, s'il en est besoin, que le dérèglement climatique est entièrement d'origine humaine. C'est un fait scientifique, ce n'est pas à moitié ou un tiers, c'est entièrement. Au même titre que la Terre est ronde, l'Anthropocène est dû à l'humain. Et les premiers contributeurs sont les énergies fossiles, bien sûr, et la déforestation. Alors pourtant, au premier semestre 2025, malgré ça, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter dans tous les pays industrialisés. Sauf, et là je vous le donne dans le mille Margot, sauf en Chine. Alors bien sûr, la Chine reste toujours le premier émetteur de GES avec un tiers des émissions mondiales. Mais si on ramène ce chiffre à son 1,5 milliard d'habitants, eh ben, un Chinois in fine a la même empreinte carbone qu'un Français, soit 9 tonnes par an. Et figurez-vous que depuis 12 mois, les émissions carbone de la Chine se sont stabilisées. Pas étonnant ça quand même ? Alors, pour conclure, je dirais bien sûr que oui, la dette publique c'est important, bien sûr. Mais moi je pense que la dette écologique l'est encore davantage. Parce que dans l'héritage que nous laisserons à nos enfants, la seule et unique question qui vaudra sera bel et bien de fixer une priorité. Être endetté ou mourir de chaud ? Au sens figuré, j'espère.
Merci beaucoup, Soizic. C'était la chronique Un autre écho de l'écho. À très bientôt.
À très bientôt. Bonne journée à tous.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paul Chouanet, à Monique Chevalier-Martin d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui. Merci Soizic. Votre émission quotidienne arrive à sa fin et sa musique originale est signée Lénaïque Folzour. À 19h30, retrouvez-nous pour une émission spéciale en direct du Chaînon Manquant, en direct du 40. Pour le lancement du festival, nos micros s'ouvrent aux organisateurs, aux programmateurs et aux artistes. Une soirée à vivre ensemble au cœur du festival. À 21h, place à l'émission Chaosphère. Christophe nous emmène en Roumanie où il a passé 3 semaines cet été pour assister à 2 festivals, 2h30 de direct de Timișoara à Sibiu. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Ce sera le grand format et nous serons avec Christian Schall, ancien professeur agrégé et conférencier qui nous parlera de l'histoire du climat. D'ici là, gardez un coin de légèreté dans vos poches, ça aide toujours à avancer plus doucement. Vous le méritez, s'il vous plaît, faites le bien.
Chut, ça s'éteint.
Jusqu'à demain, Mimi.